La femme, ben, elle est à la maison, elle fait son ménage, elle fait les courses. Et il n'y avait pas ce qu'on a maintenant, il n'y avait pas la machine à laver et tout et tout. Et c'était compliqué à ce moment-là.
Les garçons sont très préoccupés par la virilité.
Les trains de vacances qui vivent les grandes villes à l'époque du mois d'août laissent au milieu des rues dépeuplées une race singulière d'hommes seuls. On les voit à l'heure où leur travail finit, errer nonchalant sans doute, mais saisis tout de même par les nécessités quotidiennes auxquelles ils n'ont pas généralement à faire face. Grand problème de Laoutien, le blanchissage. Autre problème, les repas.
Eh bien, je pense que dans notre époque, après une ascension nécessaire, la femme est parvenue à une étape critique de son évolution sociale.
Oui.
Où elle risque de perdre en véritable influence ce qu'elle continue de conquérir en autorité apparente.
Un de mes collègues a terminé en disant « Les maris ont-ils songé que désormais c'est la femme qui détiendra le pouvoir absolu d'avoir ou ne pas avoir d'enfants ? Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les femmes ne seront plus que des objets de volupté stérile. »
Je ne pense certes pas qu'il faille revenir à une conception rétrograde ou esclavagiste de la vie sociale féminine. Mais toute femme devrait s'efforcer avant tout, me semble-t-il, de bien concevoir son véritable pouvoir d'indispensable complément de l'homme,
oui,
en respectant et en développant de son mieux la virilité masculine, au lieu de se substituer à elle dès qu'elle la juge insuffisante à son gré, erreur grave que commettent ou sont prêtes à commettre beaucoup de femmes d'aujourd'hui.
Le jeu en lui-même, il est rude, incontestablement, et rude et viride, ça peut s'assimiler. Moi, je crois qu'il y a évidemment beaucoup d'équivoques. On sait tous que les rugbyman qui s'affrontent très durement depuis un siècle et demi conservent comme férocement, je dirais, cette troisième mi-temps. Tu sais, derrière les deux premières mi-temps d'affrontement, il y a la troisième mi-temps des gorgeons, du chant, de l'analyse, des mots, avec une infinie tendresse, avec, je crois, un infini respect, presque un amour authentique. Cette troisième mi-temps où les hommes, pour libérer leurs paroles, vont boire, chanter en chœur.
Lorsque la femme comprend cette nuance essentielle, elle est alors vraiment l'égale de l'homme, non seulement sur le plan social, mais sur le plan humain tout entier.
Toute cette rudesse, non pas de parade ou de simulacre, le jeu t'invite à ça. Nous, on considère, rugbyman, que l'action est prioritaire. Quoi. On dira qu'on se méfie peut-être un peu. Hein, un intellectuel assis, ça va moins loin qu'un con qui marche, ponctuellement. Quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il est important d'être dans l'action. Viens te mesurer, viens t'affronter. Le jeu de rugby invite à ça. Après, dans la haute compétition, il y a la performance, il y a le résultat. Et puis derrière, il y a beaucoup, beaucoup de tendresse. Moi, je crois que, de toute façon, ces deux choses sont tellement intimement liées. Qui pourrait donner la sensation d'être qu'un rude, un viril, sans derrière quand même... non pas caché, hein, non pas caché, mais sans derrière avoir ce potentiel de tendresse. Simplement, pour nous, il s'exprime dans d'autres espaces.
La mêlée, elle va éviter le gros, le caillard, le costaud, le rablé, le tanké dans le sol. Et qui en même temps aime l'affrontement direct, c'est-à-dire il se tape tête à tête, épaule à épaule, il pousse.
Quand un gamin décide de se mettre à l'épreuve du rugby, il sait qu'il va recevoir des coups, il sait qu'il aura peur, et il sait qu'il devra surmonter ça. Mais ce n'est pas une mise à l'épreuve solitaire, comme dans l'escalade d'une montagne, comme dans le saut à l'élastique, comme dans ces épreuves ordaliques, qui consistent à légitimer son existence en triomphant de la mort. Là, c'est triompher, se mettre à l'épreuve, dans une équipe, dans un groupe.
On est dans un groupe, il y a des codes qui sont instaurés, une façon d'être. Là, c'était une situation dans laquelle, bon, on est un groupe de jeunes, alors ça plaisante, ça discute, ça déconne. C'est qui sera le plus audacieux, le plus drôle, le plus séduisant pour les filles. Un ensemble de vertus du jeune mâle dans le vent.
La virilité, c'est un idéal. C'est un idéal de performance, qu'elle soit économique, sociale ou sexuelle, qui prend forme dans des démonstrations verbales ou corporelles de violence ou d'autorité.
Monsieur de Monterland, votre œuvre, à mon sens, rend un son assez métallique, comme une lame d'épée, que cette épée soit celle d'un samouraï ou d'un condottiere. Et nous aimons et nous admirons en vous un certain alliage de virilité et de pudeur. C'est, je pense, la marque des âmes fortes. Ce qui explique, à mes yeux, votre goût de la grandeur des hautes époques comme la Renaissance italienne ou le XVIe siècle espagnol et portugais. Peut-être, en effet, qu'en ces temps-là, la conscience de l'honneur, l'idéal religieux, le sens du devoir était plus aigu qu'aujourd'hui.
Davantage, je pense, dans la jeunesse moderne, beaucoup aussi sur le fait d'aider le mari, d'apporter une aide, d'apporter une espèce de soutien, c'est pas de marcher avec. Alors vous semblez reléguer la femme à un plan presque moyenâgeux.
On leur enseigne à être durs, en fait. On leur apprend à ne pas exprimer leurs sentiments, ne pas les écouter, parce que pleurer, c'est pour les filles. Être sentimental, c'est un truc de chochotte.
Prétend que la moto pourrait représenter un symbole de virilité. Alors, moi, je peux pas dire que je ne sois pas d'accord avec cette formule, mais je pourrais vous signaler qu'on le dit également de bien d'autres choses, notamment des armes à feu, puisque j'ai même entendu dire que une arme puissante, un Colt 45 ou un 44 Magnum, représentait même un symbole phallique.
Je crois que sans ton courage et ton audace, je serais morte. Je ne sais comment te remercier.
Alors, je nie pas cette chose-là, je ne suis pas assez qualifié pour juger, mais ce que je veux dire, ce n'est certainement pas propre à la moto. Il doit y avoir une part de vérité, aussi bien pour les armes à feu que pour la moto. Mais je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer l'importance de ce genre de jugement.
L'homme est certainement atteint dans sa dignité quand on lui annonce, même avec ménagement, une stérilité. Et je crois que c'est parce que dans notre esprit mâle, on lit un petit peu la fonction sexuelle et la fonction de reproduction.
Cette époque, cette ère, je ne sais pas si elle est du verso ou autre chose, en tout cas une ère future à court terme, comme dit Vitacross, où, dit-il, l'homme et la femme, libérés de leurs erreurs, cesseront enfin de se rechercher comme des contraires.
Si l'on n'est que viril, si l'on n'est qu'en position de pouvoir, en position de maîtrise ou de puissance, je vois mal comment peut s'élaborer la relation à autre, et même le contenu et le sens d'une relation à autre, qui est souvent, me semble-t-il, non pas un échange de fragilité, mais une mise en commun de nos fragilités pour avoir plus de force et de vigueur.
Parce que je trouve que c'est quand même un peu trop dépassé de repenser à des questions de féminité, entre guillemets, de virilité, entre guillemets, d'hommes, de femmes, etc., entre guillemets. Est-ce la sociologie? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est la sexologie? Non, c'est pas ça.
Les Italiens ont décidé de ne plus manger de poulet. Pour une raison très simple, ils ont peur de perdre leur virilité. L'histoire a commencé il y a quelques semaines. Un Romain, vigoureux et moustachu, père de 6 enfants, alla voir, non sans quelque inquiétude, son médecin. « Vous savez, docteur, dit-il d'une voix blanche, je crois que je suis en train de changer de sexe. Vous avez peut-être suivi un traitement à base d'hormones féminines ?» demanda le médecin. « Pas du tout, dit l'homme. »
Je parle d'une différence à l'heure actuelle. Et justement, quand on parle de différence, je vois très bien ce qu'on pense. On voit quelque chose du genre du meilleur des mondes et des anticipations fantastiques qui nous font dresser les cheveux sur la tête, à savoir d'une espèce d'uniformité qui serait embêtante, n'est-ce pas? C'est bien ça. Or, à mon avis, c'est justement voir mal le problème, car je crois que demain, cette négation de la différenciation dont je parle, au lieu de se traduire par une uniformité, se traduira au contraire par une synthèse.
Le mystère ne tarda pas à être percé. Le Romain en question est cuisinier de son métier. Il mange tous les jours au restaurant où il travaille une 30aine de coups de poulet dont il est très friand. Or, le régime alimentaire des poules en Italie, dont l'élevage relève de plus en plus de l'industrie, est enrichi d'hormones féminines qui favorisent la croissance de la volaille. Et ces hormones se concentrent, semble-t-il, dans certaines parties du corps de la poule, dont le cou.
Et si vous voulez, au lieu de l'être asexué, dont ont peur ceux qui entendent parler de ce genre de choses, on aurait au contraire un être doublement sexué, donc on ne peut plus, ce qui aurait, si vous voulez, toutes les qualités des deux sexes. Il n'y aurait plus l'homme viril, la femme gracieuse, etc., pour prendre très grossièrement des styles dépassés, mais que chaque être humain serait, mettons, viril et gracieux à la fois.
L'alarme était donnée, les autorités émues sont intervenues avec énergie. il est strictement défendu désormais aux aviculteurs de traiter leurs poules avec des hormones. Cette décision a obligé plusieurs éleveurs de passer à la contre-attaque et il n'est pas rare de voir ces jours-ci dans les journaux italiens des slogans publicitaires tels que ceci « Notre volaille n'est pas nourrie aux hormones » ou « Si vous voulez rester viril, mangez nos poulets ».
Je suis un joueur viril, je ne disconviens pas. Je suis rude, mais je n'ai jamais blessé personne. Vous voyez, c'est une de mes qualités et je pense que le football français, si on s'engageait physiquement un peu plus, je parle de l'engagement physique, mais je ne parle pas de méchanceté parce qu'il ne faut pas confondre virilité et méchanceté. Et...
Une des dernières œuvres de Freud sur l'homme Moïse rétablit une distinction justement des sexes tout à fait archaïque. C'est-à-dire, c'est la femme qui est du côté de la sensibilité. L'homme, la mère essentiellement du côté de la sensibilité, l'homme qui est du côté de l'esprit et de l'intellect, c'est-à-dire que Freud retrouve à ce moment-là des dichotomies, des divisions qui correspondent à fait à celles qui sont les plus archaïques.
Si beaucoup de joueurs français travaillaient plus leur engagement physique, les résultats seraient certainement meilleurs aussi.
La psychanalyse a peut-être perçu quelque chose d'une crise de l'identité masculine, mais en y réagissant par, me semble-t-il, une surenchère du normatif. Et maintenant, par exemple, on aboutit bien à une division des rôles, alors qui s'est surtout centrée sur les rôles maternels-paternels. On ignore peut-être un peu tout cet affrontement homme-femme dont on parle peu. Mais justement, si les positions de l'homme et de la femme deviennent vacillantes et incertaines, on va renforcer d'autant les positions parentales. Et à mon sens, c'est ce qui a un peu écrasé la prise en compte du masculin, qui est un peu ignorée, parce qu'il y a une sorte de surenchère sur la fonction paternelle.
Le troisième grand mythe de ce rituel de passage, c'est le mythe de la virilité sous les drapeaux. Laquelle virilité n'est en réalité que... une déclaration de sexisme bien compris, quoi. C'est-à-dire que avec une distribution des rôles féminins qui correspond tout à fait à la caricature qu'on en fait. C'est-à-dire que c'est vrai, toutes des putes sauf ma mère et ma sœur, avec aussi une...
Bon, pour ce type-là chez moi, tous mes oncles avaient des moustaches. Les gens avaient tous des moustaches avant de dire chez nous, tous, puis ils étaient mieux. Ils ressemblaient davantage à des hommes. Ben, bien sûr. Les jeunes, maintenant, ils n'ont pas de moustache, mais vous savez, c'est pas pareil. Voyez-vous, ils ont l'air moins rudes, ils ont l'air...
Moins viril.
Peut-être, oui. Oh, je n'ai pas dit ça, mais enfin, peut-être, peut-être.
Il y a aussi, il y avait aussi quelque chose qui me frappait beaucoup à l'armée, c'était le mythe de la frustration du bidas. Ah, c'était terrible, bidas allait être pendant... en 70, c'était peut-être encore plus vrai que maintenant. Pendant un an, sans pouvoir faire l'amour, quelle horreur. Comme si les adolescents baisaient tous les jours. C'est extravagant.
Au sein même de la famille, à votre sens, quel rôle doit jouer une femme?
Je sais pas, je lui vois jouer un rôle complémentaire de celui du mari, mais dans un autre domaine.
Et... Quelle idée supérieure vous faites de l'homme?
Non, je considère que... que l'homme s'attache dans un domaine qui lui est propre et la femme dans le sien. C'est-à-dire, je serais tout à fait contre ces tendances qu'on a actuellement d'uniformiser la femme.
Si tu commences à montrer que ton but c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir. Les nanas, généralement, détestent ça. Je dis pas qu'elles détestent jouir, mais elles n'aiment pas voir que le mec concentré sur leur désir à elles.
Où êtes-vous, cow-boy de mon enfance? Toujours vainqueur. Plus fort que les méchants. À vos côtés, j'en ai fait des voyages sur des chevaux sauvages dans mes rêves d'enfant.
Les mecs, ils ne se rendent pas compte que le plus important généralement pour les nanas, c'est de te voir toi jouir plutôt que elles jouir.
Il y a crise. Alors, parmi les crises que j'ai observées, l'une d'entre elles me semble être celle du guerrier, celle du militaire, celle de tous ceux qui subissent la conscription obligatoire. Parce que on assiste à quelque chose d'extrêmement équivoque et je crois que ça mériterait en soi d'ailleurs tout un travail avec d'une part la naissance d'une soumission à l'État. qui petit à petit d'ailleurs va se développer dans d'autres domaines.
Qu'est-ce que c'est qu'un rite de passage à l'âge adulte dans les sociétés traditionnelles ? Devenir adulte, c'était être capable de quitter ses parents, sa mère en particulier. C'était être capable de combattre ses ennemis, voire de tuer un ennemi. Et être capable de fonder une famille. Voilà, c'était l'idée. Et à ce moment-là, le jeune, l'enfant, devenait un adulte.
Cette période du patriarcat, au fond, elle a duré jusqu'à hier, quoi, jusqu'à il y a 30 ans. Pour l'histoire de l'humanité, c'est hier.
Et puis, d'autre part, à une sorte d'éloge du guerrier, qui commence évidemment avec les grandes guerres napoléoniennes et qui ira jusqu'à l'ère de 14, en sachant qu'ensuite, la littérature nous donne le signe que quelque chose est profondément changé.
L'homme a toute puissance sur le corps des femmes, c'est lui qui décide si on fait les enfants, il n'y a pas de contraception, il n'y a pas de moyen d'échapper pour une femme physiquement, je veux dire, à la reproduction. C'est lui qui donne un statut respectable à une femme. Vous savez, il y a encore quelques décennies, une femme célibataire, c'était une vieille fille, un bas bleu, c'était une moindre femme, une femme peu admirée et respectée.
On est dans une phase je dis bien une phase, parce que la publicité, ce n'est qu'une série de modes. Pour l'instant, l'homme est ridiculisé, banalisé, et probablement la raison pour cela, c'est qu'il y a de moins en moins d'occasions dans la publicité pour l'homme de montrer ses talents d'héros aventuriers, puisqu'on a retiré le domaine du tabac, on n'a plus le droit, retiré l'alcool.
Et puis, c'était effectivement lui qui détenait tout le destin, la survie de sa femme et de ses filles, vous comprenez. Et la femme de l'artisan, la femme du petit bourgeois, ou la femme du très grand bourgeois, ou même avait ceci en commun, en tous les cas au début du siècle, qu'elle avait une vie entièrement dépendante, du moins économiquement, socialement, je dirais presque moralement, de leur mari.
Et en réalité, la finalité, c'était quoi? C'était d'envoyer des soldats à la guerre. Donc en fait, toute leur éducation visait à leur faire croire que l'idéal pour un homme, c'était de viser la belle mort, la mort héroïque.
Alors les femmes, elles ont droit à faire des coiffures extravagantes, à du maquillage, à faire plein de choses, des tenues vestimentaires, mais les hommes, eux, ils sont un petit peu défavorisés de ce côté-là. Donc on n'a pas le droit à tellement d'extravagance, surtout quand on est médecin et qu'on travaille en contact avec des patients, donc l'extravagance est quand même assez limitée. Et là, le book, ça a permis peut-être d'avoir un nouvel aspect, un petit changement qui fait du bien au moral, en fait.
On va dire, en fait, les hommes allemands et italiens sortent des tranchées traumatisés. On dit que c'est la boucherie de la guerre qui a créé de la crise de la masculinité, mais la solution, c'est plus de guerre.
Auparavant, l'homme viril était un homme qui avait du poil au ventre, qui, en même temps, affichait sur son visage sa virilité à travers une moustache. Et puis, on assiste depuis maintenant, en tout cas une vingtaine d'années, à une régression très forte du poil, avec un idéal de corps plus glabre. Et donc, tous ces signes extérieurs de virilité, qui étaient la barbe, la moustache, ou encore les poils sur le torse, etc.
Deux aspects fondamentaux à rattacher au personnage, qui sont la virilité et l'élégance. Car c'est la première fois, si vous voulez, dans les personnages de ce genre, dans les héros d'espionnage, dans les films d'action, dans les héros d'action, qu'un personnage répond véritablement à un critère d'élégance absolue. Le fait d'être un homme bien habillé peut prêter à équivoque, peut être sujet à caution. Des réponses qui étaient fournies à une enquête, par exemple, disent « Oui, j'aimerais bien être un homme bien habillé, mais alors pourquoi ne l'êtes-vous pas ?»« Eh bien, je ne suis pas un homme bien habillé, tout simplement parce que j'aurais peur de ne pas faire sérieux. » En définitive, le côté virilité du personnage de James Bond porte justement la notion que l'on peut être un homme adulte, je précise bien, de 25 à 77 ans, se sentir efféminé et dévirilisé justement par association au personnage.
Les hommes préhistoriques seraient velus, couverts de poils, et puis ensuite, plus nous irions vers nos époques, et au-delà, même dans les romans de science-fiction ou dans les films de science-fiction, on est devant des êtres de plus en plus glabres.
La barbe, c'est le mot qui, 9 fois sur 10, nous vient aux lèvres quand il nous arrive quelque chose d'ennuyeux. C'est dire que cette barbe sans cesse vaincue, sans cesse renaissante, est pour nous tous du sexe mâle une source d'embêtement quotidien. Oui, d'embêtement. Le mot, même si j'ose dire, est faible. Or, il se trouve qu'un cheminot américain, Harry Selmore, pense comme nous tous, le dit et maintenant le crie, le proclame. Au Sénat américain, il a demandé « Libérez-nous ». Libérez-nous de la barbe. Et il a demandé aussi qu'on dégage $1 milliard. Pas moins pour les savants, les chercheurs, qui nous débarrasseront de notre hantise quotidienne.
Il reste encore à James Bond à faire usage de l'argument suprême, la violence. L'engagement dans les films est total. Chaque bagarre n'offre qu'une alternative, la vie ou la mort. Le potentiel de violence et de sadisme que nous avons en nous peut ici s'extérioriser. James Bond est violent pour nous, à notre place. Il nous libère d'un certain nombre de complexes. 007, ce matricule au double zéro, signifie qu'il a licence de tuer. Il peut tuer comme il veut, sans autre justification que la réussite de sa mission. Quel rêve ! Il a concentré en lui la puissance suprême. Il détient les clés de la vie et de la mort. En plus, il est invulnérable. Il est absolu. Il est devenu Superman, un Superman auquel on peut s'identifier. Il ouvre la brèche par laquelle peuvent déferler tous nos rêves, même les plus discrets, les plus honteux, les plus cachés, ceux qui s'appellent sexisme, volonté de puissance. James Bond, c'est la transcendance de tous nos refoulements.
J'ai souhaité pendant longtemps pouvoir supprimer la barbe, mais je n'ai jamais eu l'idée d'y consacrer $1 milliard. J'ai préféré la laisser pousser pour qu'elle me foute la paix, tout simplement. J'arrivais plus à me raser, n'est-ce pas ? Il semble que la solution est beaucoup moins onéreuse de la laisser pousser comme on veut, comme monsieur par exemple. Comme ça, il n'y a plus besoin de rasoir. Le rasoir, c'est le type qui demande $1 milliard, $1 milliard. Il me semble, à mon avis.
C'est dans le processus engagé par les femmes, et en particulier par le droit des femmes, que cette identité masculine est aujourd'hui menacée. Je pense que dès la Révolution française, autrement dit, dès la Déclaration des droits de l'homme et les premières lois en 1792 sur le divorce, le statut de l'homme a changé.
Mais monsieur, l'humanité n'a pas besoin d'être débarrassée de la barbe. La barbe, c'est la noblesse de l'homme. D'ailleurs, nous avons, nous, les porteurs de barbe, nous avons derrière nous les philosophes qui, bien avant nous, ont su que, pour montrer leur gravité et leur sagesse, le port de la barbe était un insigne, peut-on dire, qui tendait à montrer aussi leur virilité. Car, enfin, cette barbe, monsieur, c'est un signe de virilité. Tenez, dans ces pays d'outre-mer qui viennent d'acquérir une libération assez récente, le port de la barbe a toujours été un signe de noblesse, un signe de distinction, un signe de royauté même. Seuls les barbus sont respectés. Vous n'ignorez pas qu'autrefois, les gens ayant fait pèlerinage en Terre Sainte revenaient en portant la barbe. Eux seuls avaient le droit de la porter. Actuellement encore, la barbe, dans certaines régions, est un signe de deuil. Ça, c'est autre chose. Mais, monsieur, la barbe, toute la barbe, c'est l'homme.
Une société d'ancien régime était fondée sur le nom de l'homme. Et d'autre part, l'homme avait derrière lui son ascendance. C'était de là qu'il tenait son autorité. Or, après la Révolution française, et en particulier avec la Révolution industrielle, cette assise, elle n'est plus derrière lui, elle est devant. Il faut qu'il construise son avenir, et c'est sur l'avenir de l'homme, en général de l'homme marié, que cette société va petit à petit s'édifier à travers ce qu'on a appelé la carrière.
Le fait qu'à partir des années 30, à la fin plutôt des années 30, on s'aperçoit qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui sont dans les universités de lettres, par exemple. Et peu à peu, les jeunes filles vont bénéficier de façon magnifique des possibilités de l'instruction. Et c'est, à mon sens, le facteur qui va faire basculer 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, le rapport entre hommes et femmes.
C'est encore une fois un des grands fantasmes des machos que de penser que les femmes vont remplacer les hommes. Et puis, on retrouve la société d'antan, simplement, on a changé les rôles.
Le deuxième facteur qui introduit un nouveau modèle entre hommes et femmes, c'est, je crois, d'une certaine façon, les reliquats positifs de la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble que, avec la Deuxième Guerre mondiale, on a été si loin dans l'oppression d'êtres humains par d'autres qu'après la guerre, je dirais que l'idéologie de l'égalité entre tous les hommes, mais entre tous les hommes, ça veut dire entre hommes et femmes aussi, le respect, par exemple, nouveau après la guerre des autres cultures, a amené inévitablement de regarder les femmes comme des êtres humains complets.
Il n'envisage pas la femme comme on la voit effectivement dans des conditions quelquefois excessivement difficiles et pas du tout féminines. Ça, nous sommes entièrement d'accord, parce que vous appartenez, vous êtes des étudiants, vous appartenez à une catégorie sociale qui, tout de même, vous place à l'écart de ce risque, pratiquement. Enfin, alors que dans le monde ouvrier, il faut bien tout de même le considérer, qui est important, puisque ça représente une majorité importante, la jeune fille et la femme sont placées dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement pénibles. Enfin, et il est évident, on a eu un jour un jeune ouvrier ici qui nous disait que quand il voit rentrer sa femme le soir à 6 ou 7 heures du soir, sa femme n'étant qu'un numéro toute une journée dans une usine, ça facilitait évidemment pas les relations familiales. C'est pas ça, c'est tout à fait compréhensible.
Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la grande différence, et la plus grande différence, est le besoin de dominer, d'avoir un inférieur, un plus faible, qui est si profond dans l'homme qu'il est prêt à tout pour se garder des inférieurs. Il y a même maintenant des hommes qui font la vaisselle pour que leur femme puisse rester à la maison.
Quand on se libère d'une femme, on retrouve une Harley, disons, où c'est quelque chose de très proche à l'homme. Les femmes, maintenant, roulent Harley, parce qu'on retrouve une certaine virilité au travers de l'Harley. L'évasion, la virilité, la liberté, et puis une notion de puissance, de force au travers des moteurs, et du bruit qu'exprime ce moteur, surtout. Et les vibrations, surtout. Faut pas oublier, il a oublié de parler des vibrations. Les filles sentent beaucoup de choses sur les Harley derrière.
Tu vois, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les westerns, c'est que ce sont des hommes, des vrais. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a n'importe quoi, on s'explique toujours face à face. Regardez les duels qu'il y avait. C'était pas extraordinaire, les duels? Deux hommes face à face, armés de la même façon, et le plus rapide gagne. Hein. Et il y en a eu, des comme ça, ça existait, ça. Et des hommes qui se sont trouvés face à face, prêts à tirer.
Dans le rôle au foyer, mais pas au bluff. C'est une histoire d'homme. Il n'y a pas de raison énoncée, c'est que je vois mal une femme porter Hells Angels dans le dos. Une femme, c'est pas sa place.
Et c'était bien supérieur au duel qu'on faisait à la française, si vous voulez, où les hommes partaient dos à dos et tentent pas se retourner et tirer. Même bien souvent, un avait le droit de tirer le premier et l'autre le deuxième. Là, c'était les deux hommes se regardent dans les yeux et le premier qui bouge, ça y est. Ils portaient pas plainte, ils allaient pas voir la police. Ils s'expliquaient face à face. C'est un petit peu dommage que ce soit plus comme ça aujourd'hui.
J'ai trois fils. Ils ont 25, 27 et 32 ans. Ils portent des cheveux longs, heureusement. Et je crois que les critères d'intelligence sont des critères d'adaptation. On ne peut pas refuser la mode. Et de surcroît, elle est même acceptée chez les militaires, c'est tout dire.
Oui, je sais pas. Pour une femme, je pense que... elle ferait mieux de faire leur soupe. C'est pas vrai?
Eh bien, pour les hommes, il n'y a pas de problème. Je suis pour les cheveux longs, mais pas sur les épaules. Et du moment qu'ils sont propres, eh bien, il n'y a rien à dire du tout, non. Je trouve ça bien, oui. Je crois que la virilité, c'est avant tout intérieur. Je crois que c'est la façade, c'est superficiel.
C'est-à-dire qu'elles ont accès au même diplôme. Mais entre avoir le diplôme et avoir une situation, il y a encore toute une différence. J'ai par exemple ma sœur qui avait fait l'Institut technique d'études et de recherche des corps gras, et qui était sortie troisième, qui n'a pas trouvé de situation et qui a été conservée dans les laboratoires de l'Institut technique et d'études de recherche des corps gras parce qu'on ne prenait que des hommes partout où elle se présentait.
Il faut se dire que c'est une mode. Et il faut voir quelle était la mode quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, la mode était double. Il y avait à la fois, d'une part, des garçons qui portaient des cheveux très longs et des garçons qui portaient des cheveux très courts. Et moi, j'étais dans la catégorie des garçons qui portaient des cheveux très courts. La période des cheveux longs, il faut se rappeler aussi qu'elle a été celle du Directoire et de l'Empire. Napoléon Bonaparte, à Arcole, porte des cheveux très longs, et ça n'empêche pas d'être un général plein d'audace, de violence et d'engagement.
Il devient plus féminin, plus tendre, plus sympathique, plus... il y a des gestes. Je trouve ce qui est très frappant aussi, c'est le nombre de publicités qu'on voit actuellement avec l'héros, le monsieur, avec sa main sur son visage. C'est-à-dire que comme s'il essaye de se cacher, il se sent un peu bête, un peu mal à l'aise.
La tradition va dans le sens d'une domination masculine. Lorsque j'étais enfant, ça me paraissait invraisemblable qu'en quelque sorte, une femme puisse diriger le foyer. Vous voyez ? Quand j'avais 10 ans. Bon, or ça a profondément changé.
Alors il y a eu aussi après les Muscadins, il y a eu les romantiques, c'est bien vrai. Il y a eu Victor Hugo qui a porté jeune les cheveux très longs également. Mais je crois que ça n'avait aucune influence sur le caractère. Et qu'il y aura des gens de caractère à cheveux courts et des gens de caractère à cheveux longs. Et qu'il y aura des gens mous et faibles avec des cheveux longs et des cheveux courts.